Le voleur de panda par Alain Surjet, deuxième cassette, première face, page 45. En approchant de la petite ville de Baxian, B-A-X-I-A-N, Li Feng avisa une lourde jonque à trois mâts qui descendait le fleuve, manœuvrée par des nautonniers établis à l'avant et à l'arrière du bateau. « Et si ?» songea brusquement l'enfant. Son cœur se mit à battre plus fort. Ses mains tremblèrent sur la barre. Il jeta un coup d'œil vers Ming. L'homme se tenait à une draille, un cordage qui tient la voile, et réparait un anneau de la voile qui avait cassé quand le vent s'était enflé. Occupé à son travail, il ne remarqua pas que la proue, l'avant du navire, déviait légèrement, portant le sampan hors de sa trajectoire normale. À peine, là, un tout petit peu encore, on est presque dans l'axe de la jonque. Les nautonniers poussèrent des cris lorsqu'ils réalisèrent que le sampan arrivait droit sur eux. Ils levèrent leurs gaffes, les agitèrent, reculèrent. L'un d'eux choisit même de sauter à l'eau. Ming fit un bond prodigieux, repoussa l'enfant d'un violent coup d'épaule et s'arc-bouta de toutes ses forces sur la barre. La collision fut évitée de justesse, mais les deux bateaux passèrent en raclant leurs flancs, imprimant un long tressautement au sampan qui craqua de toutes ses fibres. La voile se déchira à un crochet de fer qui saillait d'une des vergues de la jonque. Les marins se répandirent en injures, cependant que, oscillant dangereusement d'un bord à l'autre, le sampan rouge retrouvait le flot libre devant sa proue. Ming roulait des yeux fous. Il prit le risque de lâcher le gouvernail un instant, se rua sur le garçon. Li Feng le vit arriver sur lui, la main levée, la figure tordue de colère. Il se tassa sur le pont, rentra sa tête dans les épaules, les bras ramenés devant son visage, attendant les coups. L'autre l'empoigna par le col, le redressa, le tint face à lui. Il fulminait tellement que les phrases n'arrivaient pas à sortir. Il postillonna des mots sans suite, rouge de fureur, entraîna l'enfant dans l'habitacle et l'attacha contre les barreaux de la cage. Puis il retourna à la barre, ramena son bateau au milieu du Yangtze-Kiang. « Œuf pourri » crachait-il encore. « Non, mais quel œuf pourri !»« Quel sale bonhomme !» bougonnait l'enfant. « Dire qu'il s'en est fallu d'un cheveu que je réussisse. Je serai libre maintenant. » Le panda remua derrière lui. Il passa son museau entre les barreaux, souffla sur la nuque du garçon. Li tourna la tête, reçut la truffe humide contre sa joue. Il esquissa un sourire fatigué. « Vraiment pas de chance. Je crois qu'on est mal partis tous les deux. » Kim émit un petit grognement, s'assit, le dos droit, oscillant sur son postérieur comme ses jouets au fond courbé et plombé qui brinqueballe de gauche et de droite avant de s'arrêter en équilibre. Il resta un moment dans cette position, observant le petit chinois collé à sa grille, puis il se laissa retomber sur ses pattes. Il avisa un épi de maïs, le renifla à deux, trois reprises, l'abandonna et revint planter son museau entre les barres sur l'épaule de Li Feng. Tu t'ennuies, mon vieux, et je me demande si ça n'est pas préférable à la peur. Les heures coulaient lentement au fil des nuages et de l'eau. Les yeux mi-clos, en proie à une sorte d'angoisse muette, l'enfant imaginait les mille et une manières dont il aurait pu se tirer d'affaire si le nez du sampan s'était fracassé contre la jonque. Il se voyait en train de bondir sur l'autre bateau à la faveur du tumulte, se réfugier parmi les nautonniers, dénoncer le voleur, les lancer contre lui. Le sampan rouge coulait. Non, ça n'allait pas. Il fallait sauver le panda. Il reprenait alors son demi-rêve du début, repoussait le moment où le bateau sombrait pour se donner le temps de pénétrer dans l'habitacle. Nouveau problème, comment traîner la cage? Comment l'ouvrir? Et l'eau qui entrait partout? C'était pas encore la bonne solution. Ming, dans un sursaut de pitié, libérait lui-même l'animal. Non, cette façon d'agir ne collait pas avec le bonhomme, qui était un être laid et, Li n'en doutait pas, méchant et cruel. Alors, Li finit par admettre que c'était une bonne chose, ma foi, de n'avoir pas réussi son coup. À force de tourner et de retourner les situations dans sa tête, il n'était même plus sûr qu'il eût pu se sauver lui-même. un choc soudain, un long crissement de la coque et l'arrêt du sampan. Les lampes se balançaient encore au bout de leur anneau quand la porte s'ouvrit. L'air frais pénétra. Lee aperçut une guirlande d'étoiles dans un espace révélé. La nuit déjà. Cela faisait bientôt une journée qu'il s'était lancé derrière le voleur. Que fabriquait son père? Et la police? Ce n'était pourtant pas difficile de remonter le fleuve. Ming ne se cachait plus. Comment ne pas trouver bizarre ce sampan qui avançait à contre-courant? Et l'incident avec la jonque? Les nautonniers devaient en avoir parlé, non? Et puis il se rappela tout à coup que Chongqing comptait plus de 4 millions d'habitants, que le bassin rouge était l'une des régions les plus peuplées de la Chine. Il comprit que l'aventure exaltante, née de sa curiosité, s'enlisait dans un piège affreux. Il était seul, abandonné face au danger. Il avait l'impression que son corps s'emplissait de sable chaud. Ses membres devinrent gourds, ses épaules s'affaissèrent. Il ressentit un grand vide intérieur et une forte envie de pleurer. Le vieil homme finissait d'allumer une lampe à gaz. Les ombres s'animèrent quand il la décrocha. Il se pencha vers l'enfant, défit ses liens. Lee frotta ses poignets endoloris. « Donne-lui des pommes, dit le voleur. Dans ce panier, là, voilà, ça suffit. Pas trop pour la nuit. » Ming permit au garçon de sortir sur le pont. Les collines étaient devenues des masses d'ombre et les plaines alluviales, encore en partie inondées, des scintillements de nacre où la lune étirait des brillances bleutées. Le Yangtze bruissait doucement d'une respiration de serpent endormi. Ming avait amarré son bateau devant une plage de galets, à l'écart de toute habitation. L'eau clapotait contre ses flancs, imprimant à la coque un léger mouvement de roulis. L'homme attacha Lee à un cordage, puis, sans un mot, amena la voile en la faisant glisser le long des drails. Il prit son temps pour recoudre le morceau déchiré sur sa latte en bambou. Quand il eut terminé et cargué la voile sur sa vergue, il disparut dans la cambuse, la pièce où il y a les provisions. Il reparut bientôt avec deux bols de riz, des baguettes, une cruche d'eau et son petit réchaud. Il libéra l'enfant, lui fit signe de venir s'installer devant la casserole. Ils regardèrent bouillir l'eau, gonfler le riz. Ming fut le premier à rompre le silence. « Je ne sais pas si je peux t'accorder la moindre confiance. » Lee l'observa sans réponse. « Si je vous dis si, hasarda-t-il, rien ne vous oblige à me croire. » « Rien, en effet. Car tu n'as qu'une idée en tête, t'enfuir. »« Non, » assura le garçon. Mais il savait très bien que l'autre avait raison et ne le croyait pas. Ils ne se dirent plus rien jusqu'à ce que le riz fût dans les bols. Manger redonna du courage à Li Fong. La chaleur qu'il sentait irradier de son ventre l'incita à reprendre le contact, à débusquer le bonhomme par des mots. Parler, c'était ne plus être seul. C'était rejeter sa peur. « C'est quoi ces lumières là-bas » demanda-t-il. « On est près d'une ville ?» Un halo de lueurs coiffait les collines à l'ouest. « C'est Jiangjin. » Les lumières montraient bien plus haut et bien plus clair, comme une auréole au-dessus de la ville, si elle n'était pas écrasée, sucée par les vapeurs de pollution. La vallée du Yangtze est devenu un égout avec tous ces crachats d'usines. Vous n'aimez pas la ville, constata Lee en cueillant le dernier grain de riz avec ses doigts. C'est pas ça. La ville peut être belle si on évite de la laisser s'enfler comme un abcès. Ben, il faut des usines pour vivre. Mon père...
C'est vrai, coupa Ming. Il ne s'agit pas de revenir en arrière. Il y a une multitude de bouches qu'il faut nourrir et c'est 2,5 milliards de bras en Chine, qu'on doit occuper.
Alors ?
Alors je ne sais pas, dit Ming. C'est peut-être sans remède. Mais si chacun essayait de respecter son sol, son air, son eau, en tenant compte du fait que ses enfants et les enfants de ses enfants se nourriront de cette même terre et boiront aux mêmes sources que lui, alors la nature aurait une petite chance de subsister, et l'homme avec elle.
On les entend partout, ces phrases, dit Lifong. Ça n'a rien de nouveau, pourtant il n'y a rien qui change.
Je ne crois pas que tu comprennes bien.
Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Demanda Li sur un ton de colère. C'est en volant des pandas que vous respectez la nature ?
Ming arrondit ses lèvres en une moue de surprise mêlée d'indignation. Le garçon porta le coup final.
Et en enlevant les enfants ?
Li Feng eut peur tout de suite après. J'ai été trop loin, pensa-t-il. Il va me...
Le voleur, qui une seconde avait voulu se lever, fixa intensément son compagnon, les lèvres pincées à les rendre blêmes.
Son regard était noir, froid comme une lame, la peau tirée à l'extrême sur ses os en saillie. Elle devint transparente tant les muscles du visage s'étaient contractés et Li crut qu'elle commençait même à se déchirer.
« Je ne voulais pas, murmura-t-il dans un filet de voix, mais vous vengez, n'est-ce pas ? C'est parce que vous êtes au chômage que vous volez... Enfin que... Je peux comprendre, vous savez...
L'homme chassa l'air de sa poitrine en un long soufflement, puis il inspira une grande goulée, ferma les yeux, laissa filer l'air jusqu'à vider complètement ses poumons.
Li se demandait s'il allait se mettre à respirer à nouveau, s'il ne risquait pas de mourir là, bloqué, quand il le vit ouvrir les yeux et remuer les lèvres.
Comment ? Interrogea-t-il. Certain que Ming avait parlé, mais le vieillard ne disait rien. Ou plutôt, les paroles que sa bouche formait, c'était à lui-même qu'il les adressait. Une prière muette, une sorte de lamentation.
« Va te coucher » grogna-t-il d'un ton rauque.
L'enfant ne se le fit pas répéter deux fois. Le lendemain, le vent était tombé. Après l'inévitable bol de riz agrémenté d'une pomme, Ming demanda à l'enfant de l'aider à installer un moteur à la poupe du sampan. Comme Li Feng marquait sa surprise, le voleur expliqua qu'il n'avait pas voulu l'utiliser plus tôt par économie de carburant et parce que le vent suffisait.
« Mais vous auriez pu me semer tout de suite, vous échapper, insista le garçon.
« M'échapper, reprit le bonhomme. Il appuya son index sur le crâne de Li Feng.
Je voulais savoir ce qu'il y avait là-dedans, dans ta caboche. N'importe quel gamin ne serait pas lancé à la poursuite du voleur de panda. En général, je fais peur et c'est tant mieux. Toi, ça ne t'a pas arrêté. Tu étais plus dangereux derrière qu'à côté de moi. Si je ne t'avais pas capturé, la police saurait déjà que je me tiens caché en ville de longs jours avant de me hasarder à la quitter avec le panda. Alors même qu'elle me recherche sur les routes, qu'elle bloque gare et port, je patiente dans une petite maison, juste en face du zoo. Qui aurait imaginé cela, pas vrai ?
Mais pourquoi vous me dites tout ça ? Pourquoi ?
Ne pose pas de questions. Contente-toi de m'obéir et tout ira bien.
Tout ira bien, tout ira bien. Et qu'est-ce que vous attendez de moi ? Vous m'avez dit hier que je devais vous suivre pour apprendre. Qu'est-ce que je dois apprendre ? Jusqu'où et jusqu'à quand je dois vous suivre ?
Ça fait beaucoup de questions pour un seul matin. Pourtant, une même réponse suffit à toutes. Mais tu m'es pas prêt. Je me demande même si tu le seras un jour.
Le garçon leva la tête en signe de défi.
Et alors, que se passera-t-il ?
Ming regarda le fleuve et cligna des yeux.
C'est le meilleur moment pour prendre des poissons. Ils sortent de leurs rêves et sont tout éblouis par les arcades de lumière sur les flots. L'hameçon danse comme un rayon de soleil devant leurs yeux. Et puis c'est l'instant où ils ont faim et attrapent n'importe quoi.
L'enfant s'efforça de soutenir son regard.
Mais c'est pas une réponse, ça.
Ils repartirent. Ils passèrent Jiangjing, comme le fleuve commençait à ressembler à un tourbillon de voiles et de coques, un fourmillement de couleurs traversé par une cacophonie d'appels lancés d'un bord à l'autre. Des usines ceinturaient la ville, paraissaient monter la garde le long des quais. Des montagnes, on ne distinguait que les sommets, un flou gris-bleu, perché au-dessus des poussières rousses des aciéries. Le Sichuan méritait bien son nom de bassin rouge. Ils naviguèrent pendant 3 jours, au moteur ou à la voile, selon le vent, laissant derrière eux des villages aux murs de terre et aux toits de paille de riz. Les collines moutonnaient à perte de vue, brunes des arbres à thé, dont il ne restait que les branches dépouillées. La récolte de thé a lieu en mai-juin. Le 5e soir, Luzhou, L-U-Z-H-O-U, se découpait à contre-soleil. C'était une ville imposante, sise au confluent du fleuve bleu et du Tuojiang, T-U-O-J-I-A-N-G. Une eau limoneuse, rougeâtre, dévalait du nord, taillant sa vallée à travers le massif de Bayankala, B-A-Y-A-N, trait d'union, K-A-L-A. Des débris de toutes sortes fonçaient avec le courant, se déversaient dans le fleuve en un mouvement de spirale. Ils tournoyaient au point de rencontre des eaux, saisis par la violence du tourbillon, puis s'échappaient des remous, un à un. Li Feng, assis à côté du vieil homme, se demandait si ce n'était pas là que le voleur allait monnayer le panda contre des milliers de yuan. Un yuan, Y-U-A-N, c'est la monnaie chinoise, vaut un peu plus de 2 francs. Ming, lui, sommeillait à moitié, la barre calée sous son aisselle. Li se leva. « Je vais à l'avant. » La phrase et le geste du garçon tirèrent le bonhomme de sa léthargie.
« Attention, grommela-t-il, jetez à l'œil. Pas d'imprudence, sinon... »
Déjà, se retenant au drail, au cordage, l'enfant longeait les 3 bordages. Nul ne prit garde à l'arbre mort qui se ruait sur le sampan, ses branches hérissées telles une serre de rapace. Le tronc heurta la coque de point fouet. La proue se souleva, les branches s'empêtrèrent dans les lattes de bambou. Le choc avait déséquilibré l'enfant. Moulinant des bras, il était resté d'interminables secondes sur un pied, l'autre battant le vide, puis avait basculé dans les flots. La barre avait sauté au visage de Ming, lui entaillant la lèvre. Le coup eut pour effet de l'éveiller. D'un seul regard, il jaugea la situation. S'il ne dégageait pas au plus vite son bateau, l'arbre le ferait dévier vers les rochers de la berge. D'un autre côté, Li Feng, le voleur n'hésita pas. Laissant le sampan courir à la dérive, il saisit une gaffe, la plongea à l'endroit où le garçon était tombé. Il fourragea dans l'eau une résistance. Il remonta la gaffe, aperçut 2 mains agrippées à la hampe, puis la boule noire d'une tête. Il se coucha sur le plat-bord, tendit le bras. Les doigts se rencontrèrent, se nouèrent. L'enfant hissa l'enfant jusqu'à lui. « Vite !» rugit-il, sans laisser à l'autre le temps de souffler. Ming lança le moteur à plein gaz, confia la barre à Li, encore chancelant, se rua à la proue, une hache à la main.
« Ah ! Ah ! Ah !»
Libéré, le sampan fit un bond en avant. L'arbre rebondit contre la coque, son écorce glissa, éclata, puis il fila, ballotté, dans le sillon d'écume creusé par l'hélice.
« Vous m'avez sauvé ?» balbutia l'enfant.
« Ça fait 2 fois, » remarqua le vieil homme.
« Oui, mais aujourd'hui, c'était pas pareil. »«
Ah bon ?»
Li Feng dormit d'un sommeil profond cette nuit-là, vaincu par les épreuves de la journée, mais aussi parce qu'il avait senti que le voleur n'était peut-être pas aussi méchant qu'il voulait bien le laisser paraître. Le lendemain, après une pénible journée passée à suivre les méandres du fleuve à travers un labyrinthe de gorges, Ming dirigea son bateau sur la ville de Yibin, Y-I-B-I-N. Tout comme Luzhou, elle était située à la fourche que faisait le Yangtze-Kiang avec son nouvel affluent, le Minjiang, M-I-N-J-I-A-N-G. Li Feng éprouva une crispation dans le ventre quand le sampan vira pour quitter les eaux du grand fleuve bleu. « C'est la fin du voyage, » se dit-il, voyant se préciser les immeubles. « Qu'est-ce qu'il va advenir de nous maintenant ?» L'enfant avait beau se répéter que le voleur avait une arme, il n'en demeurait pas moins son prisonnier. Chapitre 6. Le village dans les airs.
Ming avait engagé le sampan sur la rivière qui traversait la ville, la fendait en deux parties. D'un côté, la cité industrielle, avec ses docks, ses grues métalliques s'élevant dans les airs tels des oiseaux noirs décharnés, ses raffineries qui vomissaient par leurs torchères un déluge de feu et de suie. De l'autre côté, la ville dortoir, c'est-à-dire un agglomérat de tours semblable à une multitude de boîtes d'allumettes serrées les unes contre les autres à s'étouffer. Ça et là émergeaient des zones de vert sombre, des trous dans la masse de grisaille, des parcs. Les oiseaux dérivaient dans le gras du ciel, d'un vol lourd, comme des morceaux de journaux emportés par les courants d'air. « On ne s'arrête pas ?» s'étonna l'enfant, tandis que le bateau se frayait sa route à travers un fourmillement d'embarcations. « Non, répondit l'homme, on va là-haut. » Et du menton, il désignait l'immensité de la barrière montagneuse. Le garçon resta bouche bée. « Là-haut ? Mais il est fou ! Il n'y a rien là-bas !» Le sampan entra dans l'ombre jetée d'un pilier, passa sous une arche. Il y avait foule sur le pont et sur les quais. Des pêcheurs et des marchandes de fruits amarraient leurs petits bateaux à des poteaux ou à des anneaux le long des murailles. Lee se demanda ce qui arriverait s'il alertait soudain tous ces gens. Il avait déjà réfléchi à cela lorsqu'il passait devant les bourgades, mais la peur que lui inspirait le voleur l'en avait dissuadé jusqu'alors. Son regard se porta à nouveau sur la montagne. Il frissonna, décida tout à coup de se rendre dans l'habitacle. Ming, qui l'épiait du coin de l'œil, trouva que c'était une sage décision. Il craignait toujours que l'enfant ne commît quelque bévue destinée à attirer sur lui l'attention. Les yeux fixés sur la proue, le vieil homme naviguait lentement entre les jonques et les sampans agglutinés, presque arrêtés sur l'eau. Outre les bateaux qui cabotaient sur le Minjiang pour acheter ou vendre leurs produits, il y avait là un bon nombre d'embarcations qui servaient de logements aux familles. Certains Chinois vivent sur l'eau en permanence et ne connaissent la dureté et la stabilité du sol que le temps d'un marché. L'air vibrait d'un bourdonnement confus. Salut qu'on se rendait, questions sur le travail, sur la santé, réponses évasives portées par des voix lasses, brisées par le labeur de la journée. Et puis des rires, les enfants bien sûr, des cris aussi, des mouvements. Ming tika. Cela discordait soudain dans ces murmures du soir. Voilà que les rires et les cris se faisaient plus nombreux, couraient autour de lui, mais ses gestes, c'était à lui qu'on les adressait. Une boule de feu remonta de son ventre vers sa gorge. Que se passait-il ? Il suivit des yeux les bras qui se tendaient, indiquant quelque chose près de son bateau. Il se pencha pour regarder dans l'eau et octa de stupeur. Des paniers, des nattes d'ajon, des morceaux de sac, des pommes roulaient contre la coque avant de s'étirer en dansant dans les remous provoqués par l'hélice. Ces paniers, ces nattes, même une planche qui fila le long de la quille. Pendant plusieurs secondes, Ming eut l'impression que le temps s'arrêtait, rivait les bruits dans sa tête. Il n'entendait plus que les rires montant de la rivière, gagnant le quai tout proche. Il ne voyait plus autre chose que ses affaires flottant derrière lui et commençant à couler. Des enfants qui plongeaient le ramenèrent brusquement à la réalité. Par Confucius, le gamin est en train de tout passer par-dessus bord. Quelque grande que fût son envie de se ruer dans l'habitacle, il ne pouvait pas lâcher la barre sans risquer l'accident. La rage au cœur, trépignant d'impatience, il dut se résoudre à s'approcher du quai pour y ranger son bateau. Moteur coupé, le sampan glissa sur l'eau et vint s'immobiliser contre le mur. Alors Ming se précipita dans la cambuse, surprit Li Fong en train de jeter les objets par un trou pratiqué dans la paroi de bambou. Il souleva l'enfant par une épaule, lui asséna une gifle retentissante qu'il envoya contre la cage. « Si tu cries, je t'écrase les doigts !» souffla-t-il entre ses dents en lui liant les mains derrière le dos. Puis il le bâillonna avec un morceau d'étoffe. Déjà des gosses frappaient contre la coque, grimpaient sur le sampan pour rapporter ce qu'ils avaient repêché. Des adultes s'esclaffaient en se poussant du coude. « C'est plus un bateau, c'est une épave qui perd ses planches !» disait l'un. « Oh, je ne le crois pas. C'est sa femme qui fait le ménage à l'intérieur, renchérissait un autre. »« À moins qu'elle ne cherche à s'enfuir par le fond, » glapit un troisième en se tenant les côtes. » Ming reparut, le visage empourpré par la colère. Il se força à sourire en récupérant ses biens,
mais évita de regarder les gens en face, de peur qu'ils ne lisent son inquiétude dans ses yeux. Qu'ils prennent à l'un d'eux le désir de pénétrer dans le sampan, rien que par gentillesse pour rendre service, et s'en serait fait du voleur de panda. Le bonhomme se contentait d'entasser les paniers, les nattes et les sacs devant lui, hochant la tête en guise de remerciement. « Aidez-le donc à ranger ses affaires !» proposa une voix.
« Non, non, ça ira très bien !» se hâta de répondre le vieil homme.
Comme l'autre insistait, Ming prit sa gaffe, décolla légèrement l'embarcation de l'escalier de pierre qui descendait du quai. Il eut peur tout à coup que les gamins qui voltaient autour de lui ne réclament d'une récompense. Il lui faudrait se rendre dans la cambuse pour y chercher quelques fruits, quelques babioles à distribuer. Les autres l'y suivraient. Et s'il s'y opposait, les gens finiraient par comprendre qu'il cachait quelque chose. Dès lors, ils ne le lâcheraient plus avant qu'ils ne se soient rendus compte par eux-mêmes. Par chance, les enfants s'égaillèrent sans rien demander, les uns en plongeant, les autres en sautant d'une jonque à l'autre, parmi celles qui arrimaient bord à bord, formaient une espèce de pont flottant. Ils étaient trop heureux d'avoir su se rendre utiles en s'amusant. Ming ramena son bateau dans le courant, à coups de perche et de godille, puis relança les gaz. Le sampan repartit sous l'œil goguenard des pêcheurs. Li reniflait, ravalait ses larmes. Non pas tant à cause du coup qu'il avait reçu, mais parce que toutes ses tentatives échouaient et que chaque toux du moteur l'éloignait de la ville. Il savait qu'une fois dans la montagne, il ne pourrait plus se passer de Ming pour survivre. Et si le vieux l'abandonnait ? Li regretta sa conduite. C'était sa dernière chance de faire arrêter le voleur. Il n'y était pas parvenu et, en plus, il venait de perdre irrémédiablement la confiance de l'homme, si fragile fut-elle. Il aurait voulu s'en ouvrir au panda, lui confier sa peine, ses sentiments contraires. Il posa son front sur les barreaux et se mit à pleurer. Kim cessa de manger, approcha sa tête, vint effleurer son compagnon d'infortune. Les yeux fermés, Li se laissait caresser le visage par cette langue râpeuse, imaginant qu'il serrait le panda dans ses bras, comme lorsqu'il se consolait, tout jeune enfant, avec son ours en pluche. Yibin s'effaçait, nimbé de lumière crépusculaire vérolée de fumerolles rouges et noires. Ming navigua jusqu'à ce que la nuit vint brouiller sa vision. Alors il ancra le bateau à l'abri d'un petit bois et se mit à réfléchir. Sa colère était tombée. Il regrettait d'avoir emmené l'enfant, mais que pouvait-il faire à présent ? Le relâcher ? Là, dans la nature, c'était le condamner à une mort probable, car il n'était pas certain que Li fût capable de regagner seul la cité. Des loups rôdaient encore dans les collines. S'il y parvenait, les autres croiraient-ils à son récit ? Si oui, il se lancerait aussitôt sur les traces du voleur et le rejoindrait sans peine. Sinon, il laisserait le garçon se débrouiller dans ce grand corps inconnu qu'était Yibin, et Ming savait ce qu'il advenait à des gamins laissés à la rue. Li arriverait un jour à regagner Chongqing, mais il lui faudrait auparavant se nourrir, se loger aussi, et le froid la nuit était vif. Li Fong le vit entrer, une lampe à la main. D'abord, le vieil homme ne dit mot. Il fourragea dans un sac, nourrit le panda, commença à préparer le repas. Il fit tomber le baillon de l'enfant, s'accroupit à côté de lui et fixa la flamme bleue du réchaud à s'en brûler les yeux. Au bout d'un moment, il tourna la tête vers Li et croisa son regard noir.
« Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça ? » commença-t-il d'un ton bourru.
Le garçon haussa les épaules.
« Je suppose que tu aurais été fier de toi si on m'avait pris. »«
C'est normal que j'essaye de m'enfuir, non ?» jeta l'enfant. « On est des ennemis ?» Ming fit la grimace comme si le mot l'avait brûlé.
« Ennemis, ennemis, c'est vite dit. »«
Comment appelez-vous ça ? Vous me bousculez, vous me frappez, vous m'attachez, vous avez même tenté de me tuer. »«
Et je t'aurais sorti de l'eau si j'avais vraiment voulu me débarrasser de toi. »« Et ça par deux fois. »
L'enfant baissa la tête, puis s'enferma dans le silence.
« Je vais te détacher si tu me promets de rester tranquille. »
Li Fong haussa deux ou trois fois les épaules d'un geste lent, avec une moue pour signifier qu'il ne savait pas trop. « De toute façon, j'ai pas le choix, » ajouta-t-il, de peur que l'autre ne revînt sur sa décision. Ming alla arrêter son réchaud, versa le riz fumant dans deux bols, revint vers l'enfant pour couper ses liens. Les cordes tombèrent, Li se massa les poignets, s'assit en tailleur, prit le bol de riz dans lequel le vieil homme venait de ficher les deux baguettes. Installé en face de lui, Ming regardait manger l'enfant, son éternel rictus en travers du visage. Fin de la première face de la deuxième cassette, Le voleur de panda par Alain Surjet, page 67.